France Culture.
Question du soir, Quentin l'a fait.
De nombreuses questions ce soir au sujet d'un concept, celui d'émancipation. En quoi, selon mon invité de ce soir, ce concept a-t-il été confisqué par une histoire politique? Quel est son sens véritable et originel? Comment la société libérale et capitaliste contemporaine a-t-elle effacé le sens collectif inhérent à l'émancipation au profit du jeu et de la liberté individuelle? Enfin, pourquoi la définition de cette notion est-elle depuis toujours en devenir, plus encore d'ailleurs dans nos sociétés libérales? Pour en parler ce soir, Michel Rio-Sarcey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'université Paris 8 Saint-Denis. Vous êtes historienne du politique, spécialiste de l'utopie et de l'histoire du féminisme. Évidemment, votre dernier ouvrage qui paraît aux éditions du Détour s'intitule « Mais où est passée l'émancipation ?» Merci beaucoup de près d'être présente ce soir dans Question du soir. Je le disais en introduction à Michel Rio-Sarcey, c'est vrai qu'elle est belle philosophiquement, politiquement, cette notion d'émancipation, et dans le même temps, elle paraît tout à fait absente du débat public contemporain. On ne la mobilise pratiquement plus. À droite, c'est plus logique. À gauche, la notion fait pourtant partie de son histoire. Comment est-ce que vous expliquez cette absence ?
La question n'est pas simple, parce qu'on est obligé de revenir sur le passé et surtout de bien comprendre qu'est devenu et comment est pensée l'émancipation aujourd'hui. Alors lorsqu'on interroge tout simplement les personnes, y compris dans la rue, ça m'est arrivé, pour leur poser la question, à votre avis, qu'est-ce que l'émancipation ? Est-ce que vous pensez que vous êtes sur le chemin de l'émancipation ? Alors, j'ai tourné les questions de diverses manières, mais réellement, il y avait un temps d'arrêt. La personne s'arrêtait en se demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire, de fait ? Qu'est-ce que c'est que s'émanciper ? Et pratiquement toujours, j'étais obligée de donner l'explication. Ensuite, la personne s'illuminait. Parce que, quand on comprend ce qu'est l'émancipation, tout dépend de soi. C'est un chemin que chacun peut emprunter très facilement à condition de savoir de quoi s'émanciper, de qui s'émanciper. Et du même coup, tout à coup, on devient responsable. Non seulement responsable de ce que l'on est, mais responsable de ce qui va advenir de soi. Et quand on ajoute, par exemple, s'émanciper des contraintes qui vous enserrent, s'émanciper des tutelles, s'émanciper de différentes obligations qui vous contraignent, alors là, tout est possible.
Ça me trouble cependant, Michel Rio-Sarcey, lorsque vous dites que tout dépend de soi en matière d'émancipation et que cela responsabilise l'individu, ce chemin vers l'émancipation, parce que cela signifie que la politique n'a pas sa place dans ce domaine, que toutes les luttes politiques qui se fondent sur l'émancipation n'ont pas de sens ?
Pas du tout. Simplement, tout a été masqué. Masqué par un processus tout simplement publicitaire. Je commence mon livre par donner justement une publicité. Et du même coup, on a l'impression que imiter ce que l'on voit à l'image permet de s'accomplir. Et ce processus qui émane de la société actuelle, c'est-à-dire du libéralisme, qui a contraint les individus à faire ce que les autorités souhaitaient, ce que l'économie imposait, induisait dans son mécanisme. L'idée, par exemple, que ce qui arrive va de soi. C'est comme ça, vous l'avez entendu mille fois, c'est comme ça. Eh bien, précisément, la question de l'émancipation, justement, ça ne va pas de soi. Le « c'est comme ça » ne va pas de soi. Il faut absolument que les individus, quels qu'ils soient, que les personnes ou qu'elles soient, s'interrogent là où je suis, qui suis-je d'une certaine manière, et c'est moi qui me contrains ou si on me contraint. Et quelles sont ces contraintes ? Alors, incontestablement, toute une histoire nous a montré que les organisations politiques, les politiques, ont imaginé possible l'émancipation collective. C'est-à-dire, tout simplement en changeant de gouvernement, en essayant de faire évoluer les pouvoirs, en tentant d'humaniser l'économie. Toute une série de mesures ont été prises. La chose qui a été oubliée, qui me semble absolument dramatique, c'est qu'on n'a pas du tout compris ou refusé, oublié ou dénié, que les individus, quels qu'ils soient, ne peuvent se libérer qu'eux-mêmes, qu'elles-mêmes. Vous imaginez l'immensité de l'écart qui existe entre des collectifs, des organisations qui sont instituées pour libérer les autres par rapport à ce processus qui est indispensable, nécessaire, élémentaire. On ne peut se libérer que soi-même.
Vous pointez du doigt pour expliquer cet absentéisme de la notion d'émancipation dans le débat public.
Cet absentéisme, cette absence.
Cette absence, absolument, cette absence de l'émancipation dans le débat public. Le capitalisme, le libéralisme, les formes contemporaines de l'économie, on l'a bien compris. D'autres pourront vous dire ou expliquer qu'il s'agit aussi peut-être d'un autre travers de l'époque, à savoir que l'époque valorise les assignations, les identités, les étiquettes. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de motif, justement ?
C'est tout simplement l'envers de la médaille. À partir du moment où on n'a pas l'impression d'être responsable de ce que l'on est devenu ou de ce que l'on est, eh bien, on cherche quelque chose qui vous ressemble. Puisque l'émancipation, au sens moderne du terme, c'est-à-dire à l'époque où les révolutions anglaise, américaine, française, ont ouvert la voie, comme le dit Quinet, à l'impossible. Chaque personne, chaque collectif, s'est imaginé possiblement libre. Émancipation et liberté sont étroitement liées. À partir de cette ouverture, tout est possible. Et donc, si tout est possible, je peux le faire avec les exigences que cela suppose. Et ces exigences, ça signifie tout simplement que être libre, c'est se libérer des contraintes qui vous enferment. Il faut les identifier, ces contraintes. Alors, la chose qui s'est passée historiquement, c'est que il y a eu un modèle d'homme libre qui s'est constitué. Institué même. Qu'est-ce que l'homme libre ? C'est celui qui sait qui il est, d'où il vient. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté ? Et du même coup, s'il sait, donc, il a eu connaissance d'eux, il est capable de débattre, il est capable de dialoguer, il est capable de disputer une loi, etc. Et peu à peu est apparue la nécessité de gens capables. Donc, une forme de privilégier de la liberté. Tous ceux qui ont fait la révolution en France, ceux qui étaient à l'Assemblée, à la Constituante, bref, se sont imaginés les représentants authentiques. Ils étaient libres, donc accès au savoir. Et à partir du moment où ils ont accès au savoir, ils ont du temps. Il faut du temps pour gérer la chose publique. Et donc, le temps, c'est tout simplement des gens qui sont un tout petit peu à l'aise et donc propriétaires. Le savoir précède la propriété. Et peu à peu, bon, le monde est né, le monde nouveau, la modernité, la révolution industrielle, les prolétaires, qui ont été associés à cette révolution industrielle, qui ont été exploités, ont manqué de temps. Ils passaient le plus clair de leur temps à travailler. Les libéraux, les grands libéraux de l'époque, de Guizot à Tocqueville, le disent. Donc, leur liberté est moindre que la précédente. ça signifie tout simplement que ce modèle d'homme privilégié est devenu une référence. Et on a voulu identifier tous les hommes libres à ce modèle. Pour accéder à ce savoir, il faut l'école. Pour accéder au dialogue, pour accéder au débat, il faut avoir là encore du temps. Donc on prend le temps où il est, avec tout ce que ça veut dire comme amputation sur le temps de l'autre. Parce que le temps n'est pas extensible. Et pendant très longtemps, par exemple, les hommes ont eu le droit de vote, par exemple, au détriment de celui des femmes. Les hommes qui travaillaient manquaient de temps. Donc, ils l'ont pris sur la domesticité. Et pendant des décennies, les hommes avaient le droit de vote, les femmes non, etc., etc. Ce modèle s'est imposé à tous. Et pour être libre, pour s'émanciper, on voulait imiter cet homme libre. En imitant cet homme libre, il n'y a pas de place pour l'autre différent. Et n'ayant pas de place pour l'autre différent, c'est une tension permanente entre ce que je suis, ce que l'on me demande d'être, ce que je voudrais être, et du même coup, vous avez une unité sociale qui se constitue au détriment justement de la diversité. C'est pourquoi aujourd'hui vous rencontrez cette hâte d'être libre, mais en tant que moi-même, puisque ça n'a pas été intégré dans l'ensemble social, dans la civilisation moderne. Et vous avez cette fragmentation des identités.
Je voudrais vous faire entendre, Michel Rioux-Sarcey, la voix de Jacques Rancière. Il tente de dessiner les formes et les moyens de l'émancipation.
Ma question n'a jamais été celle du rapport entre liberté et déterminisme. Ma question a été celle de ce que peuvent ceux ou celles qui sont censés ne pas pouvoir. C'est ça la question de l'émancipation. C'est autour de ça. C'est pas la liberté comme libre arbitre. C'est comme ça qui est au cœur effectivement du différent avec Bourdieu, avec la sociologie, comme c'était aussi au cœur du différent avec Althusser. Disons malgré tout, ce contre quoi d'abord j'ai réagi, c'est l'idée que les gens peuvent pas s'émanciper, parce que pour s'émanciper, il faut savoir pourquoi on est dominé. Et bon, effectivement, il y a la tradition marxiste que représentait Althusser, à savoir les gens vivent dans l'idéologie, donc pour qu'ils puissent se libérer de non pas en général, être libre en général, mais d'une suggestion déterminée, bon, il faut que la science leur apprenne pourquoi ils sont dominés.
Ça résonne très fortement, ce que dit Jacques Rancière, ça résonne très vivement à ce que vous nous disiez, Michel Rioux-Sarcey. Pour s'émanciper, il faut savoir.
Pour s'émanciper, il faut savoir ça. Mais moi, je ne l'ai pas pris chez Althusser, bien loin de là. J'ai même fait une critique du structuralisme dans mon précédent livre sur l'émancipation entravée. Ça signifie d'accéder à la connaissance, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance aussi. Et cette idée de savoir, je l'ai pris précisément dans celui qui a introduit l'utopie dans l'histoire, Condorcet. Son esquisse pour le progrès de l'esprit humain. Il explique se sentir libre, c'est lire un livre dans la solitude. C'est fabuleux, ça.
C'est un poème en prose, vous dites.
Oui, pratiquement, oui. Parce que j'ai rarement lu un livre aussi optimiste, dans une période de chaos total, il croyait vraiment à la force et au progrès de l'esprit humain. Tout le monde a lu Condorcet au XIXe siècle, sauf que tous les contemporains se sont laissés faire par la force des choses et par la révolution industrielle. Lorsque nous sommes, disons, tout début du siècle, personne n'imagine que l'exploitation de l'homme par l'homme sera contemporain de la modernité. Personne. Le progrès, c'est le progrès de l'esprit humain. Alors, quand on a cette espérance chevillée au corps, on imagine extraordinairement le progrès à venir, on imagine l'avenir. tout le monde va apprendre, très tôt, dès les années 20, 30. Hein. On sait, les années 20, par exemple, les femmes veulent apprendre à lire. On sait que c'est la condition de la citoyenneté. Mais très tôt, l'organisation politique qui suit l'évolution de la force des choses, les vainqueurs de la révolution, imaginent que la société égalitaire n'est pas possible. La démocratie, c'est le chaos. Et donc, on imagine une hiérarchie. Mais la hiérarchie passe par l'école aussi. Donc, l'école primaire est inventée pour que les individus qui n'ont rien, les dépossédés, les prolétaires, le mot est d'époque, 1830, eh bien, tout simplement, puissent librement se soumettre. La modernité, elle est associée à la liberté. Mais ce que l'on cherche, c'est de faire en sorte que, volontairement, on désigne les gens les plus capables. Et ça marche. C'est extraordinaire. Ça marche très vite. En 1848, lorsque la République est proclamée, tout le monde est républicain. Tout le monde est républicain. Et donc, ils se présentent, effectivement, comme des gens qui connaissent, non seulement grande connaissance, mais qui savent ce que conflit veut dire, qui savent ce que débat veut dire. Et donc, effectivement, le débat, hein, comme le dit Lefort, la démocratie, c'est le débat, on l'imagine assez facilement. Très tôt, dès le XXe siècle, tous ceux qui n'ont pas la capacité, justement, d'avoir des livres à la maison, etc., etc., inventent des écoles pour pouvoir dialoguer avec ceux-ci à la Chambre des députés. Il y a des écoles, l'école de parti, par exemple. Il faut qu'on parle la même langue. Hein. Il faut surtout qu'on parle la même langue. C'est-à-dire qu'on donne le même sens aux mots. Si jamais les mots divergent, ça veut dire que les idées sont différentes. Si on prend le mot émancipation au pied de la lettre, se libérer des contraintes qui vous enferment, sortir des tutelles religieuses, familiales, et que dire de l'exploitation de l'homme par l'homme, vous voyez ce que ça veut dire? Obligatoirement, c'est le conflit, mais le conflit qui ne se résume pas au débat au sein des assemblées. La démocratie, alors, elle se répand partout, y compris au travail. Et ça va très loin, parce qu'on ne donne pas le même sens aux mots sur le temps de travail, etc., etc.
Pourquoi dites-vous, pourquoi écrivez-vous, Michel Riault-Sarcey, que présentement cette notion d'émancipation est fragilisée, légèrement effritée même à cause des réseaux sociaux? Pourquoi justement faire interférer cette notion avec les réseaux sociaux?
Je commence mon livre comme cela. Je suis allée invitée par un collègue, Jérôme Duhois, qui est prof de philosophie à l'école Estienne. Et il m'a demandé de faire une conférence sur l'utopie parce que, me disait-il, mes étudiants ont tendance à quand même privilégier les dystopies. Tu veux pas venir aller faire cette conférence? Et puis, j'avais ce petit livre qui m'avait été commandé par les éditions du Détour. Et je lui dis, je sais pas par quoi se commencer ce livre. Et il m'a dit, ça tombe bien parce qu'en fin d'année, là, j'ai trois équipes qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui essayent de voir un peu comment la jeune génération non seulement se distrait, mais se pense.
Vous êtes vous-même sur les réseaux sociaux?
Très peu. Très peu. Pratiquement pas, non. Et donc, moi, je suis curieuse de savoir comment la jeune génération se pense et pense son devenir. Et donc, ils m'ont aidé parce que leurs travaux de fin d'études, il y avait trois équipes. L'une travaillait sur le hashtag ThatGirl. Et donc, on s'aperçoit que c'est des millions et des millions, etc., de vues. Et donc, ce qui fascine, c'est l'image. C'est justement ce que l'écran donne à voir, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis toujours un tout petit peu distante avec les images, parce que les images fixes, le texte permet à l'imagination de s'évader. Et ils constatent, ils font un vrai travail, ils ont fait un vrai travail, et ils constatent que ce modèle de fille qui est donné à voir est un modèle idéal, extraordinaire, milieu crème, activité saine, gymnastique, nourriture saine, tout est vert, crème. Mais dans ce modèle, il n'y a pas d'autre. Vous imaginez ce que ça représente, une vie sans autre? C'est-à-dire que l'individualisme triomphe et le moi en majesté se donne à comprendre et à voir tout le temps et comment? J'ai constaté que ça correspondait avec ces romans qui ne cessent de parler du « je », de mon expérience, de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Ah, extraordinaire, j'ai lu le dernier livre. Et je me retrouve. C'est l'envers de la littérature, ça. Moi, je me retrouve pas dans Balzac. Je trouve ça extraordinaire. Les livres de Balzac, Eugénie, etc. C'est des choses qui sont absolument fabuleuses. Imaginer quelque chose. Se retrouver dans l'autre, sur l'image de l'autre, c'est se perdre. Dis-je. C'est ce que j'ai découvert avec les collectifs, justement, de l'école Estienne.
Et c'est aussi ce que permet de montrer un autre lien important que vous tissez, le lien qui lie l'émancipation individuelle à l'émancipation collective. Je ne peux être fondamentalement émancipé si et seulement si l'autre, face à moi, l'est également.
Bien sûr. Comment puis-je être libre si l'autre ne l'est pas ? Dialoguer, débattre suppose l'égalité de connaissance, l'égalité au sens fort, c'est-à-dire que on a vraiment des choses à se dire avec des arguments. Non seulement des arguments, mais des références. Et pas simplement l'écran. Donc, on débat. Je reste, moi je suis peut-être quelqu'un du 19e siècle. J'ai vécu si longtemps avec les premières qui ont pensé l'émancipation. Entre 32 et 1832-1834, l'émancipation du peuple et des femmes était à la mode. Vous voyez ce que ça veut dire? Et donc, peut-être que cette fréquentation permanente dans les archives, ça forge le caractère. Et ça permet d'avoir les yeux ouverts sur l'actualité.
Pour ne pas achever cet entretien sur une note totalement sombre, je voudrais qu'on finisse par une autre notion, l'utopie, et plus précisément le réel de l'utopie. En quoi peut-il justement nous permettre de renouer en profondeur avec ce concept d'émancipation?
C'est tout simplement retrouver le moment où l'émancipation était connue à partir du moment où les individus n'avaient pas de droit, aucun droit. C'était une question de survie vitale, donc ils s'auto-organisaient. Et ils savaient ce que liberté voulait dire, parce que leur liberté était souvent organisée dans les associations illégales. Et donc, ils savaient ce que exister voulait dire. Non seulement ils subissaient au quotidien l'exploitation de l'homme par l'homme, mais ils arrivaient à se projeter dans l'avenir. L'utopie, au sens réel du terme, c'est à la fois la critique du présent, ce que fait Condorcet, hein, la critique du présent, la critique réelle, acerbe, et puis la projection dans l'avenir. Ce que font les collectifs comme Notre-Dame-des-Landes et bien d'autres, hein, ailleurs, au Mexique, etc. Je donne les références dans mon livre. On peut pas avoir une critique permanente, sinon c'est le ressentiment. Et le ressentiment, c'est l'équivalent de l'impuissance. Donc, on vit dans ce monde, on est très distant. Et en même temps, on essaye de se projeter vers l'avenir. Et du même coup, c'est le principe espérance qui revient. Mais pour pouvoir trouver et vivre selon le principe espérance, il faut revenir en arrière. Il faut faire retour sur le moment où cette idée d'émancipation étroitement liée à la liberté, là je diverge de Rancière, est pensée possible et surtout est palpé possible, est saisi possible. On a cru longtemps à une société autre. Et cette société autre a échappé aux individus, les moins bien lotis. Il faut revenir à cette période qui est une exigence critique par rapport au modèle existant et en même temps une institution en devenir.
Merci beaucoup, Michel Rioux-Sarcey. Je rappelle d'un mot que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du jour à l'Université Paris 8 Saint-Denis, historienne du politique, spécialiste de l'utopie, on l'aura bien entendu, et de l'histoire du féminisme. Et le titre de votre dernier ouvrage, Mais où est passée l'émancipation? C'est aux éditions du Détour. Merci d'être venu dans Question du soir.